Et 7h40 sur France Culture et les états généraux de l'alimentation se poursuivent. Avec un second chantier, les débats abordent la sécurité sanitaire de l'alimentation française dans une économie agroalimentaire mondialisée, la lutte contre le gaspillage ainsi que la transition écologique de l'agriculture. Sur ce point-là et sur d'autres points, nous recevons Michel-Édouard Leclerc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de l'enseigne de grande distribution Édouard Leclerc et à 7h41, il est d'usage d'avoir le son du jour et ce son aujourd'hui, il est consacré à un homme que vous avez bien connu, que vous aimiez beaucoup. Il s'appelait Gérard Horth, mais on le connaissait mieux sous son nom d'André Gortz. C'était un philosophe et journaliste français. Il était né en 1923, il a disparu en 2007 et voici un extrait d'une interview qu'il a donnée en septembre 1990.
Nous sommes dans une mutation culturelle fondamentale. Et si je mets tant l'accent sur le recul par rapport au travail, la distanciation par rapport au travail, c'est qu'il est déjà en train de s'installer. Dans toutes les enquêtes que l'on a faites aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, il en ressort toujours que les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Chez tous les 30 ans et moins, enfin à 80%, la réponse est toujours « Nous, on n'est pas prêts de sacrifier notre vie pour le boulot et pour la profession. » Ce que nous demandons à notre travail, c'est premièrement d'être intéressant, de permettre une implication et d'être socialement utile et d'avoir un sens.
La voix d'André Gortz, votre réaction quand vous entendez à nouveau cette voix?
Moi, je suis ému. Il faut savoir que je suis né à Landerneau d'Hélène et Édouard Leclerc. Je suis parti très tôt en pension à Paris. Je voulais être missionnaire. J'ai été dans un séminaire. Et puis après, j'ai fait des études classiques, de philo notamment, à Paris, où j'ai rencontré un journaliste du Nouvel Observateur qui s'appelait Michel Bosquet, hein, et qui avait écrit « Critique du capitalisme quotidien ». Et donc, il avait pris un nom de philosophe pour le journal « Les Temps modernes », où il remplaçait Merleau-Ponty. C'est un homme délicieux, c'est un homme très faible, et on sent à sa voix que c'est pas un Schwarzenegger. Hein. Mais cet homme très doux, mais très précis, très exigeant, avait anticipé la fin du travail, et avec son compère Ivan Illich, nous interpellait, nous les étudiants, et peut-être moi déjà comme futur chef d'entreprise, pour essayer de voir quel pourrait être le lien social et le sens de la vie sans la fonction sociale du travail. Et c'est donc très prémonitoire de ce que la révolution digitale va démultiplier. Il y avait déjà des mutations, il y avait le progrès, il y avait qui supprimait des emplois, mm-hmm. des emplois pénibles, c'était lisible et autres. Mais aujourd'hui, des emplois de cadre, des emplois au placé, des emplois de culture sont menacés par la digitalisation. Alors il y a d'autres créations de valeur, mais enfin les individus qui en vivaient se retrouvent privés d'une vie sans sens si liée uniquement à ce travail et à cette rémunération. D'où le côté intéressant dans la campagne de Benoît Hamon de dissocier lui-même le travail du mode de vie et de la rémunération, avec cette idée de revenu généralisé pour tous. C'était dans la droite file de la pensée d'André Gortz, et je pense que sa pensée est très prémonitoire de la réallocation du rôle du travail dans une société globalement sans travail humain. À terme, tous nos geeks de la révolution digitale nous parlent des algorithmes, du pouvoir de la robotisation. Eh bien, c'est une fresque à la Blade Runner qu'ils nous décrivent, belle ou mal, mais de toute façon, la question est ouverte de savoir comment on va remplir sa vie et comment on va en vivre.
Vous avez voté Benoît Hamon, Michel-Édouard Leclerc ?
Non, j'ai pas voté Benoît, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. D'abord, j'ai une complicité bretonne avec lui. Il est breton et son père était aussi très engagé dans le mouvement syndical à Brest. Mais c'est quelqu'un qui, je trouve, dans cette campagne, a été le seul. Bon, il a été broyé par la campagne des primaires, par ailleurs inintéressante et tout ça. Mais il a ouvert ce chantier ou réouvert ce chantier qui aujourd'hui va revenir. C'est évident.
Mais alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'il y a quelques années, l'incarnation des damnés de la Terre, c'était les caissiers, les caissières d'hypermarchés. Aujourd'hui, on redoute leur disparition. Vous en pensez quoi ?
C'est un manque de vision à long terme. Il y a des travaux pénibles, il y a des travaux difficiles. Les travaux de la terre, c'était à la fois paysans et salariés, dans l'image de Frantz Fanon, c'était les exploités. Après, on a assimilé, peut-être à tort et un peu vite, la fonction de caissière de supermarché à ce rôle-là, ce qui était franchement imbu, quoi, parce que c'était
Pourquoi
souvent... Parce que c'était d'abord un métier qui permettait à des femmes d'accéder au travail.
Enfin, qui permet encore, parce qu'il
oui,
y a quand même des questions, sauf si vous considérez que...
Non, je me situe dans l'époque, et puis aujourd'hui, dans les centres Leclerc, je donne des médailles du travail à des femmes qui ont 30 ans et 35 ans de caissière. Caissière, le métier a évolué, elles sont aujourd'hui avec un terminal d'ordinateur, elles connaissent mieux le client, elles offrent des services. Donc c'est un métier dont la fonction pénible va disparaître. Peut-être même que la définition va changer, mais c'est un métier qui va rester. L'accueil, l'accompagnement, la diffusion d'informations, si on veut qu'elle reste humaine, passera par la caissière ou par l'ancienne caissière. Donc pour moi, le métier de caissier n'est pas... supprimer, ou plus exactement, la fonction d'encaissement va être probablement automatisée, et on peut en parler, banquier, téléphoniste, tout ça se dispute le paiement automatisé, mais cette humanité qu'il y a dans l'accueil, dans ce que les uns appellent hôtesse de caisse, dans les autres conseil client, moi je pense que ça va pas disparaître.
L'un des gros thèmes aujourd'hui dans l'actualité, c'est la mutation de l'hypermarché. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans un hypermarché, Michel-Edouard Leclerc ?
Dans un supermarché, c'est 30-40 personnes. Dans un gros hyper, ça va de 300 à 600 personnes. Et dans un centre commercial, comme il y en a au sud de Paris, ça peut monter à 1000-1200 personnes.
Dans un hypermarché où il y a donc, mettons, 500 salariés, combien de personnes sont affectées aux caisses ?
Beaucoup, parce que c'est plus un poste à temps plein. Ce sont des CDI, mais ce sont des CDI qui permettent de faire plusieurs postes. D'abord, on ne fait venir les caissières.
C'est-à-dire que ce sont des temps partiels ?
Ce sont des temps partiels.
Mais des temps partiels subis ou des temps partiels choisis ?
Oui, forcément. Personne ne choisit l'heure où passe le client. Et la caissière n'est là d'abord que pour encaisser le client.
Mais est-ce que ces personnes souhaiteraient travailler à temps plein ? C'est cela, en fait, la question que je
posais. Oui, ça a été un débat dans le monde syndical il y a 2 ans, 3 ans. Enfin, moi qui suis tous les jours dans les magasins, ce n'est pas le débat central en province. La question qui va plutôt avec, c'est qu'est-ce que je fais pendant mon temps de... Mais vous savez, beaucoup de caissières ne font pas plus de 26-27 heures, tout en étant en CDI, et ce qui est déjà beaucoup de travail. Mais c'est le même problème que pour les professeurs qui ont des cours le matin et des cours l'après-midi et pas des cours à midi, quoi. On est rarement en temps choisi dans la vie, vous savez. Vous-même, vous avez des temps d'émission. Si vous vous en retrouvez avec une le matin et un autre le soir, la question se pose de ce que vous faites dans l'entre-deux et comment est-ce que vous êtes accompagné. Et quand on habite en province et qu'on n'habite pas trop loin de chez soi, ce qui est souvent le cas chez nous, ça fonctionne. Quand on doit rester dans l'environnement de l'entreprise, ça nécessite d'être accompagné en termes financiers et en termes de délai.
Alors justement, donc, même si ce sont des personnes qui tournent dans les magasins, sur les 500 salariés d'un hyper, combien sont affectés aux caisses environ ?
Non, mais la caisse n'est plus le symbole. Dans l'enseigne Leclerc...
Vous voulez pas me répondre, hein ?
Si, mais en fait, vous faites une focalisation sur un débat d'il y a 20 ans qui avait mobilisé Martine Aubry, Ségolène Royal, et ça.
Non, bon. J'aimerais vous parler du débat de demain, qui est la disparition de ces caissières.
Mais
et
non,
savoir,
mais
en fait...
je vous ai répondu. Il y aura toujours quelqu'un sur la ligne de caisse, même s'il ne fait pas le même métier. Donc,
en fait, ce que je souhaitais savoir, Michel-Edouard Leclerc, est-ce qu'on va travailler demain avec autant d'équivalents temps plein et dans une grande surface qu'aujourd'hui ?
On va travailler plus.
Vous allez embaucher ?
Oui, j'embauche là. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Il ne faut pas faire une fixation sur une catégorie qui va peut-être changer de nom. Leclerc, c'est aujourd'hui 120 000 salariés en France. On est l'un des 10 gros employeurs français. On emploie 3 000 personnes supplémentaires par an. C'est sur les 3 dernières années, plus de 10 000 personnes recrutées sous l'enseigne Leclerc.
À magasin constant ?
Non, rien n'est constant parce que
donc alors vous ouvrez des magasins, donc c'est normal que vous embauchiez.
On enferme, on ouvre des drives, on ouvre des sites web. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la nature de la fonction est touchée par la digitalisation. Les priorités ne sont pas les mêmes, mais là, il y a des emplois que l'on perd ou des formes d'emplois que l'on perd, mais il y en a plus qui se créent pour le moment. D'accord. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps d'André Gors, nous ne sommes pas encore dans le temps de Benoît Hamon, mais nous voyons bien que tout le monde est touché. Et dans la banque, par exemple, on voit bien qu'il va y avoir une diminution considérable d'effectifs parce que beaucoup de tâches pourront être faites par des algorithmes. On voit bien que dans l'éducation nationale et dans la fonction publique, ce qui est un sujet tabou et auprès des syndicats et autres, on voit bien que beaucoup de postes, vont être changés par l'accès à la connaissance qu'on peut trouver sur l'internet et notamment à la fac. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne vont plus au cours. Et le cours magistral, oui, il est menacé. Il est le show magistral, mais de moins en moins. Donc c'est pareil dans nos hypermarchés. En fait, aujourd'hui, j'affirme, Leclerc, malgré la révolution digitale ou avec la révolution digitale, va créer plus d'emplois qu'il n'en supprime. Mais on va supprimer les emplois pénible, on va au contraire générer des emplois de création de valeur.
Est-ce que cela représentera, donc, vous l'avez dit, plus d'emplois selon vous à l'avenir, mais un emploi pour les mêmes personnes, parce qu'il est aussi question d'employabilité, est-ce que ces emplois pénibles qui pourraient être pourvus par des machines, puisque en fait c'est cela l'enjeu aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être remplacés par des emplois qui ne pourront pas être tenus par les mêmes personnes?
Alors dans nos métiers à nous, je pense qu'avec une bonne formation, on passe de l'un à l'autre. Aujourd'hui, quand on était simplement dans une fonction d'encaissement en bout de chaîne auprès du consommateur, alors que avec la carte de prépaiement ou avec le simple contact, votre téléphone vous débite, effectivement, cette fonction d'encaissement est supprimée. A contrario, il faut quand même la contrôler. Et puis, dans la même ergonomie, il faut quand même vérifier que les produits passent bien sous la douchette, la lecture du code-barre, etc. Donc, la fonction encaissement diminue, mais la fonction aide au client sur le même tapis de caisse augmente.
Et donc, vous pensez
que les mêmes personnes. Oui. Alors, dans les drives, c'est pareil. Dans les drives, ce qui est compliqué, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de formation. Elles pouvaient faire de la manutention. Aujourd'hui, dans un drive, il faut savoir piloter la recherche d'un produit avec un iPhone, avec un écouteur. Ça nécessite une formation. Je dirais que marginalement, il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Je dirais qu'il y a des journalistes, d'ailleurs, qui se font passer pour des salariés ou des futurs salariés. Et qui ont vraiment du mal avec les tâches, mais globalement, ça reste à la portée des mêmes personnes. Dans une même génération, on peut passer d'un poste à un autre, même digitalisé.
Mais ça, vous ne pensez pas que ça va être complètement digitalisé, puisque aujourd'hui, même sans être un grand prospectiviste, on peut imaginer que des machines vont avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire d'aller dans les stocks chercher le produit qui est commandé par les clients.
On crée d'autres postes de communication, de logistique. Il faut construire ces machines.
Aujourd'hui, alors dans ce cas-là, vous ne ferez pas de gain de productivité.
Attendez, mais ne tirez pas des. C'est des phrases qui ne sont pas en conséquence l'une de l'autre. Vous me posez la question, en fait, du maintien de l'emploi dans une révolution technologique. Donc oui, aujourd'hui, je crois, sans être absolument trop positiviste, oui, je crois que si tous les emplois ne se valent pas, je crois qu'il y a des emplois qui disparaissent ou qui mutent, mais qu'il y en a beaucoup qui créent. Et dans mon groupe, on en crée plus qu'on en supprime. D'accord ? Ça, c'est clair. Et même aujourd'hui, on a des entrepôts complètement automatisés pour préparer la livraison à domicile, la livraison des drives, pour faire notre Amazon Leclerc, si vous voulez. Mais c'est créateur de beaucoup plus d'emplois, de plus grande valeur ajoutée. C'est celui qui était cariste, qui devait porter les trucs.
Qui conduisait un petit
alors
chariot et
dans un investissement de 180 millions dans un entrepôt, la moitié c'est du soft, la moitié ce sont des cadres, la moitié ce sont des gens qui fabriquent des applications, et donc ce sont des métiers à plus forte valeur, à plus fort sens.
Alors je vais vous reposer la même